choses au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Les footballeuses professionnelles en Australie ont obtenu une augmentation salariale qui va leur permettre de bénéficier de la même rémunération minimale que leurs collègues masculins. Au terme d'un nouvel accord collectif dévoilé le jour même de l'ouverture de la Coupe du Monde féminine en France, le salaire annuel de base des joueuses du championnat australien dames a été augmenté de 33% à 16 344 $. La Fédération australienne de football a salué un accord qui répond au principe d'égalité des genres, la même rémunération de base pour le même travail de base. Des stars comme la capitaine de la sélection, Samantha Kerr, peuvent tourner à des salaires à 6 chiffres grâce à des accords avec des clubs locaux et avec les Matildas, l'équipe nationale australienne. Mais jusqu'en 2017, de nombreuses joueuses du championnat australien considérées comme amateurs étaient uniquement défrayées. L'Australie ambitionne d'organiser la prochaine édition de la Coupe du Monde féminine en 2023. Pour rappel, en octobre 2018, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé que le total des prix pour la Coupe du Monde féminine 2019 serait augmenté de 15 à 30 millions de dollars. Les championnes remporteront 4 millions de dollars sur ces fonds, mais les critiques ne sont pas pour autant impressionnées, à commencer par le syndicat mondial des footballeurs professionnels. En dépit de ces changements, le football reste encore plus loin de l'objectif d'égalité pour tous les joueurs de la Coupe du Monde, sans distinction de sexe, a déclaré la FIFPro dans un communiqué. En réalité, les changements signifient une augmentation de l'écart d'argent entre les prix des hommes et des femmes. Cette tendance régressive semble aller à l'encontre de l'engagement statutaire de la FIFA en faveur de l'égalité des genres, déplore le syndicat. Lors de la Coupe du Monde masculine 2018 en Russie, la somme totale était de 400 millions de dollars. La France, vainqueur de la compétition, avait remporté 38 millions de dollars. Cette année, les équipes féminines se partageront 7,5% du total des prix des hommes. Selon la sociologue burkinabé Félicia Bilgo, le rôle de gestion communautaire de la femme, perçu bien souvent comme une extension de sa fonction domestique, prend en Afrique une dimension contextuelle de réponse à la défaillance de l'État, dit-elle, accentuée par les vagues des programmes d'ajustement structurel, notamment dans des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation, l'alphabétisation. Elle se décline sous une multitude d'actions, poursuit-elle. Construction d'écoles, sensibilisation à la scolarisation des filles, aménagement des cantines scolaires, lutte contre la malnutrition et le VIH, développement de l'artisanat. Pour l'exercice de ces activités communautaires dans lesquelles des femmes prennent des responsabilités ou des engagements, elles s'appuient sur des réseaux traditionnels d'alliances, de voisinage, de quartiers, mais aussi sur des groupements féminins, des associations financées par des bailleurs de fonds étrangers, trouvant en elles la clé du changement social. Donc, c'est une analyse de la sociologue burkinabé Félicia Bilgo.
Parole de femme.
Thank you. La place des femmes dans les médias en Afrique francophone était le thème du DISCOP, le salon de l'audiovisuel africain qui s'est tenu à Abidjan fin mai. À cette occasion, la directrice d'Africacom, Séverine Laurent, a présenté les résultats d'une enquête portant sur la situation des femmes dans les médias. Selon cette étude, 57% des personnes interrogées estiment qu'il y a moins de 30% de femmes journalistes ou animatrices vedettes dans les émissions diffusées ou articles édités. Et 61% estiment qu'il en est de même pour les femmes expertes invitées dans les médias. J'ai demandé à Madame Laurent de nous présenter les points forts et conclusions de l'étude qu'elle a dirigée.
D'abord, c'est que près de 14% des femmes qui ont été interrogées ont déjà subi des violences physiques dans le cadre de leur travail, donc ça peut aller jusqu'au viol, hein. On a d'ailleurs demandé une minute de silence très intense pendant la conférence. Et le deuxième élément qui est ressorti, c'est que près de 40% des femmes ne se sentent pas aidées par les femmes dans le cadre de leur travail. Et une proposition a été faite à la fin de la conférence. On s'est toutes portées volontaires pour mentorer une jeune femme en début de carrière pendant une période d'un an, à raison de 30 minutes par semaine, où on va consacrer notre temps à essayer d'aider les jeunes femmes au début de leur carrière. C'est un programme que l'on va lancer par le biais d'un site Internet, c'est une grande campagne communication où on va demander aux jeunes femmes de nous envoyer un CV avec un certain nombre d'informations. L'idée, c'est qu'on puisse choisir quelques jeunes femmes comme ça à accompagner dans les 15 jours à 3 semaines. Hein.
Alors, ce que vous avez remarqué, notamment au cours de votre enquête, c'est que peu de femmes occupent des postes à responsabilité et vous dites même que c'est comparable un petit peu à l'Europe, c'est ça?
Tout à fait. J'étais très surprise de constater ce fait. Moi, avec mes idées reçues, j'étais convaincue qu'on allait atteindre des taux beaucoup plus importants en Afrique qu'ailleurs. Et en réalité, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous autres femmes, en tout cas dans le secteur des médias, nous sommes semblons être confrontés aux mêmes difficultés que les femmes en Europe ou peut-être ailleurs dans le monde. C'était très surprenant, tout à fait.
Donc le pourcentage, c'est quoi à peu près ?
À moins de 30% de femmes qui occupent des postes à responsabilité. Les taux sont particulièrement flagrants dès lors qu'il s'agit d'invités experts, lorsqu'il s'agit de parler de mode, de couture, voire d'éducation enfantine, nous sommes présentes. Cependant, dès que l'on aborde des sujets caractérisés dits plus sérieux, tels que la finance, l'aéronautique ou autres métiers, alors là, on est complètement absente des plateaux télévisés et de radio.
Alors, ce qui est intéressant également dans votre enquête, vous avez parlé tout à l'heure de vos idées reçues et vous avez justement fait plusieurs questions en rapport avec les idées reçues et les préjugés, à savoir si les femmes travaillent mieux que les hommes, sont de meilleures communicantes, de meilleures dirigeantes, etc. Qu'est-ce qu'il ressort de ces questions-là?
Une donnée très intéressante, c'est qu'il semblerait que les messieurs fassent davantage confiance à une dame dirigeante. C'est carrément même en contradiction avec le nombre de postes qui sont attribués aux femmes dirigeantes. Et donc avis aux grands décisionnaires, il semblerait que les femmes aient un atout à jouer à ce niveau-là, au niveau de la confiance.
Alors, qu'est-ce que vous suggérez pour améliorer cette situation, pour qu'on ait un petit peu plus d'équilibre au niveau des médias entre hommes et femmes?
Ne pas lâcher. Je dirais que ce n'est pas un conseil qui s'adresse exclusivement aux dames. Surtout y croire. Hein. Penser que c'est possible. À partir du moment où on a confiance en nous-mêmes et en nos capacités pour avancer, je pense qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. Surtout si on travaille et qu'on fait tous les efforts nécessaires. Je pense que nous autres femmes sommes un peu moins privilégiées hein, dans ces secteurs professionnels. Hein, mais que cependant, au bout de quelques années, à un moment donné, les portes vont s'ouvrir.
Qu'est-ce que vous retenez du rendez-vous DISCOP donc à Abidjan cette année?
Beaucoup d'intérêts étrangers, notamment on a vu Israël, on a vu les Indiens, les Turcs, tout le monde aujourd'hui, en tout cas lorgne l'Afrique, est conscient de ses potentialités. Également beaucoup de projets par les Africains eux-mêmes sur leur propre production. Et ça, c'est un vrai signe positif pour la profession. si on n'a pas nous-mêmes la main sur nos propres productions, sur ce qui est diffusé à la télévision, c'est très compliqué pour maintenir nos cultures.
Merci beaucoup Séverine Laurent. Vous avez été donc directrice de l'enquête Discope, la situation des femmes dans les médias en Afrique francophone. Vous êtes également directrice de AfricaCom. À très bientôt.
Merci beaucoup Nathalie, à très bientôt.
J'ai ensuite contacté Patrick Zukowicki, le président du Discope, dont le concept a débuté en 1991 en tenant des salons de l'audiovisuel, principalement dans les pays d'ex-Union soviétique et de l'Europe de l'Est, pour se concentrer ensuite essentiellement sur l'Afrique et le Moyen-Orient ces 10 dernières années. Je lui ai demandé quelle progression il avait pu observer pour les femmes dans le milieu de l'audiovisuel au cours de ces 3 dernières décennies.
Avant de remarquer la progression des femmes dans ce secteur, ce que nous remarquons tout d'abord, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de producteurs, de créateurs, de scénaristes, de talents qui viennent des pays que nous couvrons. À Abidjan, nous avons constaté qu'il y avait 2 fois plus de producteurs indépendants qui sont venus d'Afrique subsaharienne. Donc le commerce intra-régional aujourd'hui est effectivement un élément remarquable de nos marchés puisqu'il permet aujourd'hui un commerce beaucoup plus dynamique entre des chaînes qui demandent du contenu local et en face des producteurs et des réalisateurs et des talents qui ont une meilleure perception des besoins ou des habitudes culturelles. Et effectivement, dans ce réservoir de talents, nous constatons qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont aujourd'hui devant, derrière la caméra, qui écrivent, qui participent à ces développements et qui effectivement jouent un rôle de plus en plus important. Mais effectivement, comme nous le soulignons en organisant cette conférence sur la place des femmes dans les médias en Afrique francophone, cette place justement a besoin encore d'être affirmée. Il y a du travail, il y a un travail à faire pour justement permettre à ces femmes d'avoir beaucoup plus d'assurance dans un monde qui est pas toujours facile, celui du divertissement audiovisuel.
Alors vous l'avez dit, c'est une réalité, peu de femmes devant, derrière la caméra, même si c'est en progression, mais au niveau de la production, c'est très rare les femmes productrices. Est-ce que c'est principalement une question de financement selon vous ?
Je me permettrai simplement de dire qu'il y a quand même un certain nombre de femmes productrices aujourd'hui en Afrique subsaharienne qui font parler d'elles et qui le font comme n'importe quel chef d'industrie pourrait le faire, notamment Mohamedou au Nigeria, qui est, on va dire, l'Oprah Winfrey nigériane, et derrière beaucoup d'autres femmes qui sont à l'origine d'initiatives de production. Mais effectivement, elles ne sont pas légion, et c'est pour l'instant une industrie dominée par les hommes. Alors, ce qui manque, je dirais que les moyens manquent à tout le monde. Il n'y a pas, à mon sens, et peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas qu'il y ait plus de moyens aujourd'hui disponibles pour un producteur masculin qu'une productrice. Je pense qu'il y a de toutes les manières et un manque chronique de moyens de financement qui touche tout le monde. Ce qui est certain peut-être, c'est que les histoires proposées ne sont pas forcément les mêmes, bien sûr, et qu'effectivement, c'est dans la manière de vendre ces histoires que les choses ne fonctionnent pas toujours de la même manière, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme qui présente cette histoire. Je pense aussi qu'il y a un manque de confiance qui fait que cette assurance indispensable aujourd'hui n'est pas innée, qu'elle demande à être entretenue ou en tous les cas installée, entretenue, puis affichée. Il y a un parcours, il y a des parcours, il y a des raisons, des circonstances, mais je pense que de façon générale, je suis quelqu'un d'optimiste et je vois et je constate, si vous voulez, qu'il y a une progression dans la volonté, dans les mœurs, dans les moyens, dans la reconnaissance, bien sûr, du talent de ces femmes qui, encore une fois, pour certaines d'entre elles, contribuent déjà à la diversité et au succès des séries qui sont produites en Afrique.
Patrick Zukowicki, président du Discope et de Basic Lead, était joint à Los Angeles, en Californie. Je poursuis cette édition en citant à nouveau les travaux passionnants de la sociologue burkinabé Félicia Bilgo. Elle a écrit, je cite, « Dans ce mode d'appréhension des rapports sociaux ne sont pas prises en considération la division sexuelle du travail et la connotation symbolique que véhiculent certaines tâches réputées périlleuses pour la masculinité de l'homme. Celle-ci interpelle sa capacité à procréer, à transmettre un nom et par conséquent, au-delà de l'entretien de la pérennité du patrilignage, à conserver un lien entre le monde des vivants et le monde des morts dans un processus d'échange. » Et elle poursuit en disant « Par une telle structuration sociale, la femme est assujettie à des fonctions limitant sa liberté et sa créativité en matière de progrès. »
Si je ne pouvais.
Selon la FAO, 108 millions de garçons et filles de 5 à 17 ans travaillent dans l'agriculture, l'élevage, l'exploitation forestière, la pêche ou l'aquaculture, souvent pendant de longues heures en étant exposés à de nombreux risques. Le travail des enfants observé principalement dans le secteur de l'agriculture a même augmenté depuis les dernières données. Mettant en danger leur santé et nuisant à leur éducation, il constitue une violation de leurs droits. Pour remédier à cela, il faut donner plus d'opportunités économiques aux familles, en particulier aux femmes et aux jeunes, souligne Ariane Janton, chargée du programme Travail des enfants dans l'agriculture à la FAO.
Il y a de bons indicateurs qui montrent qu'insister plus pour permettre un meilleur accès aux ressources productives telles que la terre et le crédit pour les femmes et les jeunes pourrait également avoir de très bonnes conséquences pour réduire le travail des enfants dans l'agriculture. En améliorant le sort des femmes et le sort des jeunes, les familles seraient moins enclines à envoyer leurs enfants travailler. Les agents de vulgarisation du ministère de l'Agriculture sont présents en général sur tout le territoire, donc ils peuvent avoir accès aux enfants et être à même, dans leur position de appui, conseil, d'aider les familles à ne plus dépendre du travail des enfants. L'investissement rural est essentiel pour que les familles rurales pauvres, les communautés agricoles, puissent effectivement sortir de la pauvreté. Mais si ces sauvegardes sont clairement formulées dès l'élaboration des plans d'investissement ruraux, il y a de fortes chances qu'ils contribuent également à diminuer, voire à éliminer le travail des enfants dans l'agriculture.
Ariane Janton est chargée du programme Travail des enfants dans l'agriculture à la FAO. Cameroun, les universités privées des zones anglophones se délocalisent à cause de l'insécurité. C'est notamment le cas de l'Institut Saint-Louis, jadis basé à Bamenda, un établissement pionnier dans la formation sur les métiers de santé. C'est à Douala, la capitale économique, que cet institut est désormais implanté, nous dit notre correspondant Emmanuel Julentap.
Dans une ambiance studieuse, une soixantaine d'étudiants francophones et anglophones suivent les explications du professeur dans le campus de l'Institut Saint-Louis à Douala. Angèle est l'une des étudiantes. Elle vient de Batibo, une localité située à 50 minutes de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, en zone anglophone.
Les études sont bonnes ici. Les enseignants sont compréhensifs et dispensent bien leurs cours. À cause de la crise, quand j'ai appris qu'une branche de Saint-Louis avait été ouverte à Douala, j'étais contente et j'ai décidé de venir ici.
Aimé Béasso Fozok, est un autre étudiant. Il aspire à une carrière de technicien principal d'odontostomatologie et il n'a pu suivre sa formation à Bamenda.
J'ai fait le concours récemment qui m'a amené à Bamenda, mais il aurait dû avoir des interférences avec les parents puisque comme c'est une zone d'insécurité, les parents avaient une résistance à nous envoyer à Bamenda.
En 16 années de fonctionnement, l'Institut Saint-Louis avait à Bamenda ses propres locaux, des équipements modernes, mais aussi des enseignants expatriés. Dr Nick Ngwanyam, promoteur de l'Institut Saint-Louis de Bamenda.
Nous avions une enseignante indienne qui est maintenant en Ouganda. Avant de quitter Bamenda, quand les choses allaient bien, nous avions 1600 étudiants. Plus de la moitié étaient francophones, venant des régions francophones pour étudier avec nous. Et nous construisons actuellement une autre école à Ndou dans mon village. Nous avons dû déménager de Bamenda parce que la vie était très inconfortable. Il y avait déjà beaucoup d'enlèvements, donc je n'avais qu'à partir. Heureusement, je suis allé au ministère de l'enseignement supérieur. J'ai reçu l'autorisation de créer un autre institut à Douala.
50% des investissements du système éducatif dans les deux régions anglophones ont été affectés par la crise qui sévit depuis 2016, selon un rapport du groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, qui regroupe les plus grands opérateurs économiques du pays. Les pertes financières sont énormes pour le promoteur de l'Institut Saint-Louis, Dr Nick Ngwanyam.
Au moment où j'ai quitté Bamenda, les activités économiques sur l'ensemble de la région du Nord-Ouest avaient chuté de 40%. C'est vraiment pénible pour nous. La meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est le retour de la paix afin que nous puissions continuer nos activités.
Pour relancer les activités académiques de l'Institut Saint-Louis, qui loue actuellement des locaux pour fonctionner, le gouvernement a accordé à son promoteur l'autorisation d'ouverture de 3 nouvelles filières de formation pour le nouveau campus de Douala, encore en construction. Emmanuel Zulta, de retour de Douala, VOA Afrique.
Entre parenthèses.
Au Sénégal, la Dakar Fashion Week s'est tenue début juin. L'événement, qui en est à sa 17e édition, s'est imposé au fil du temps comme un rendez-vous phare pour la haute couture et le monde de la mode. En effet, aujourd'hui, de plus en plus de grands couturiers du monde entier ont les yeux rivés sur le continent africain et sont viviers de jeunes créateurs. Retour sur cet événement dans un reportage d'Alison Lekogo Fernandez.
Une collection orange et noir, symbole du feu et de la royauté, ornée de peintures sur tissu pour rendre hommage à la femme africaine. Baptisée African Queen, cette collection a été créée par deux Ivoiriennes, deux amies d'enfance qui se sont lancées dans la mode il y a 2 ans avec un credo marqué au fer l'identité africaine.
On a eu souvent l'habitude de porter des habits occidentaux. Pourtant, nous aussi, on a des merveilleux talents, on a plein de richesses que les occidentaux prennent aussi pour faire des produits. Donc on a toutes ces richesses-là, donc pourquoi pas les utiliser nous-mêmes en ajoutant aussi notre touche de modernité.
L'originalité et la créativité de la mode africaine suscitent aujourd'hui un intérêt dans le monde entier. Au cours de cette dernière décennie, on a vu apparaître des références au continent dans des collections haute couture sur les podiums les plus prestigieux d'Europe et d'Amérique du Nord.
Je pense totalement qu'il y a une réelle évolution au niveau de la mode africaine, que la mode africaine est vue différemment aujourd'hui dans le monde entier et qu'aujourd'hui l'Afrique représente vraiment le cœur de l'industrie de la mode et donc on est en plein boom.
Mais au moment du lancement de la toute première Dakar Fashion Week, l'engouement était loin d'être le même. C'est la styliste sénégalaise Adama Paris qui a créé l'événement il y a 17 ans et en un peu moins de 2 décennies, elle a constaté de nombreuses évolutions.
Internet a changé la donne pour nous tous. On est capable d'être de Kolda ou de Bujumbura et de vendre une robe à New York avec Instagram, avec les réseaux sociaux, avec les sites internet, le e-commerce qui est très difficile en Afrique, mais c'est capable. Alors qu'avant on était enclavé, on n'avait pas accès à des boutiques, ni de galeries Lafayette, ni de choses comme ça. Maintenant, chaque créateur potentiellement a sa propre boutique avec juste en postant sur Instagram.
De jeunes créateurs africains qui ont donc davantage accès au marché et davantage de visibilité. Ils sont une trentaine venant de 14 pays d'Afrique mais aussi des États-Unis et de France à s'être donné rendez-vous à Dakar, capitale de la mode, pendant une semaine.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voafrique.lmf pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous. À la technique, c'était Sims Loumami et Dan Crafton. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.